الشرقية عيونها روزية حبك من قلبي يا وانتي عيني حبك من قلبي يا وانتي عيني بنت الشرقية
Bonsoir, il est 18h, l'heure de votre émission « Une heure en Palestine », programmée chaque mercredi sur Radio Galère 88.4 et animée par différentes associations de soutien à la Palestine. Ce soir, c'est BDS Provence qui anime l'émission et je suis Vincent. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre page Facebook BDS Provence ou le site internet de l'association AMI Palestine 13, www.assopalestine13.org. Et c'est Sidi qui assure la technique. Merci Sidi. Plus d'un an que suite aux crimes du Hamas, l'armée israélienne dévaste Gaza de façon si violente et si cruelle que les mots pour définir ces crimes abominables viennent à manquer. Le plus conforme est celui de génocide, puisque lorsque l'armée israélienne d'occupation s'emploie à exterminer la population gazaoui, elle détruit également les hôpitaux, les écoles, les universités, les bibliothèques et leurs archives. La Cour pénale internationale a proposé une enquête toujours en cours pour un plausible risque génocidaire. Israël, qui n'a pas de frontières, exporte la violence employée à Gaza, au Liban, où l'armée israélienne cible la population, mais aussi les forces onusiennes de la FINUL. Le droit international n'a jamais existé pour l'État-nation du peuple juif. Intitulé, voté par la Knesset en juillet 2018, et qui dit bien la nature de cet État et de l'apartheid qu'Israël applique à tous ceux qui ne sont pas juifs. Yoav Gallant, le ministre de la Défense, lance dès le 9 octobre 2023 une entreprise de déshumanisation acharnée du peuple palestinien. Nous combattons des animaux humains, nous agissons en conséquence, déclare-t-il. Nous n'avons entendu aucune déclaration occidentale scandalisée suite à cette saillie raciste et de négationnisme humain à l'encontre des Palestiniens. Ni dans la bouche de Macron ou de François Hollande, l'ami d'Israël, tous les deux trop occupés par le deux poids, deux mesures qui est la règle d'or de ceux qui ne veulent rien voir et seulement crier leur soutien indéfectible à Israël. Hollande déclarant que les bébés et enfants morts sous les bombes israéliennes sont des dégâts collatéraux du droit d'Israël à se défendre. Ceci en dit long sur l'humanité personnage. Imaginons des propos d'animaux humains tenus en direction d'Israéliens ou de colons juifs. Les massacres qui continuent se passent dans un silence occidental abyssal. Ce conflit, qui est entré dans sa seconde année, se bâtit sur le détestable modèle américain. Nous sommes le bien, ils sont le mal. Netanyahou se prévaut sans rire de défendre la civilisation judéo-chrétienne. Israël et ses adorateurs veulent simplement entraîner les opinions vers un pseudo-conflit de civilisation. Pour définir cette guerre vue de France, et comme il faut appeler un chat, trois mots disent avec précision la nature de cette guerre. Colonialisme, racisme, islamophobie. Comme le passé colonial de la France s'est réveillé dans le traitement des événements de Nouvelle-Calédonie, nous pouvons dire qu'il y a des points de jonction objective entre la France et Israël. La culpabilité de l'Allemagne, promise à l'éternité, sera secouée par une intervention pertinente de l'historienne Sophie Bessis, que nous écouterons. Elle remet le monde un peu à l'endroit. Notre citation sonore, qui comble les silences et retoque les mensonges des médias mainstream, sera empruntée à la chaîne YouTube Blast, qui a réuni quelques spécialistes pour faire le point, un an après le 7 octobre, et que nous remercions vivement pour cette très complète table ronde. Mais d'abord, écoutons l'historienne Sophie Bessis.
Il ne s'agit pas de défendre Israël. Moi, je pars d'un principe de réalité. Aujourd'hui, on peut poser la question de la légitimité de la création de l'État d'Israël. C'est une question parfaitement posable. Ce n'est pas un tabou pour moi. On peut dire que la création d'Israël n'est pas une création légitime dans la mesure où, au fond, l'Europe a fait payer aux Palestiniens son crime.
Vous dites que les Occidentaux aujourd'hui soutiennent Israël parce qu'ils culpabilisent encore d'un crime qu'ils ont fait et qu'ils veulent aujourd'hui...
Tout à fait. En fait, les Européens se sont débarrassés de leur fardeau sur des Palestiniens qui n'avaient rien à voir avec le génocide, le judéocide commis au cœur de l'Europe par le nazisme et avec la complicité ou la passivité des autres États européens. Donc les Palestiniens payent pour un crime qu'ils n'ont pas commis.
Merci à la très pertinente Sophie Bessis. Et maintenant, la table ronde de Blast sous le titre sans équivoque « Israël, Palestine, bilan d'un an de propagande et de coups de force ».
Un an après le 7 octobre, marqué par les attaques sanglantes du Hamas qui ont traumatisé et ravivé les pires souvenirs des Juifs et des Israéliens, selon le sociologue Didier Fassin, le consentement à l'écrasement de Gaza a créé une immense béance dans l'ordre moral du monde. Et c'est le soutien à sa destruction que retiendra l'histoire. Gaza, dévastée et massacrée, n'est plus qu'un champ de ruines. Et le Liban, nouveau front de la fuite en avant meurtrière de Benjamin Netanyahou, pourrait être en voie de connaître le même sort. Si cette macabre obstination à laquelle nous assistons impuissants n'est cependant pas sans effet, la date du 7 octobre, elle, n'est pas sans histoire. Bienvenue à toutes et à tous dans cette émission spéciale de Blast consacrée au 7 octobre, un an après, en collaboration avec le journal en ligne Orient 21. Deux parties pour une émission au cours desquelles nous tenterons de déconstruire les récits, les narratifs, mais aussi les actes israéliens et occidentaux qui ont fondé et accompagné le consentement à l'écrasement de Gaza et au massacre de sa population en dépit du droit international. L'impunité qui permet à la force de s'installer contre le droit, c'est la question que nous aborderons dans la seconde partie de cette émission que nous avons intitulée « Israël, Palestine, Liban, la force contre le droit » avec la journaliste rédactrice en chef d'Orient 21, Sarah Grira, et nos invités Sylvain Sipel, Michel Siboni et Raphaël Maison. Dans la première partie de cette émission, nous reviendrons précisément sur les mécanismes, les cadrages qui ont soutenu la propagande politique et militaire israélienne et qui ont permis et qui permettent toujours de justifier l'injustifiable. Une première partie que nous avons choisi d'intituler le 7 octobre, un an après, « La propagande à l'épreuve des faits ». Et à mes côtés, pour interroger les invités et apporter son expertise de spécialiste du Moyen-Orient, je suis ravie d'accueillir Alain Grech. Je suis ravie de vous accueillir, Alain Grech.
Merci.
Bonjour. Vous êtes donc le directeur de la rédaction du média en ligne Orient 21, avec lequel nous sommes heureux de collaborer pour cette émission. Et vous êtes spécialiste du Moyen-Orient, auteur de nombreux livres sur cette question, dont ce livre vraiment très important, « Palestine, un peuple qui ne veut pas mourir », aux éditions Les Liens qui libèrent. Bonjour Émeric Caron.
Bonjour.
Vous êtes député rêve apparenté France Insoumise de Paris. Vous étiez vice-président du groupe d'amitié France-Israël à l'Assemblée nationale avant que n'advienne la dissolution. Sans relâche, vous vous êtes mobilisé pour manifester votre indignation et votre soutien aux Palestiniens aussi bien dans les arènes politiques que médiatiques. Et vous avez en plus, à la tentation des uns et des autres de détourner le regard, opposé celle des images avec la réalisation d'un film sur Gaza depuis le 7 octobre. On en parlera. Bonjour Lumi, vous êtes collaboratrice régulière de Blast, co-autrice d'un programme dédié à la critique des médias, qui en ont bien besoin, avec Usul, c'est Rhinocéros bien sûr. Vous nous parlerez de l'importance de la critique médiatique dans un champ naufragé, et on reviendra plus spécifiquement sur ce premier numéro de Rhinocéros que vous avez courageusement consacré à la couverture de la guerre de Gaza. Je reviendrai bien évidemment sur l'emploi de ce terme de courageux. Enfin, bonjour Clotilde Mrafo.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, correspondante à Jérusalem. Vous rentrez tout juste de Cisjordanie, qui subit une accélération de la colonisation depuis le 7 octobre et qui est le théâtre quotidien de violences, d'exactions de la part des colons de l'armée israélienne. Vous nous en parlerez. Votre dernière visite à Gaza remonte au mois de juin. Vous avez constaté, vous avez dénoncé avec force le discrédit que certains s'attachent à associer au travail des journalistes palestiniens. Gazaoui en particulier. D'ailleurs, pour ouvrir cette émission, j'aimerais que l'on regarde ensemble le témoignage d'un journaliste palestinien, Alain Gresh. Il s'appelle Rami Abou Jamous. C'est votre correspondant à Gaza.
Oui.
Voilà, donc on va regarder tout simplement son témoignage et puis on en parle après.
Un an de guerre, c'est 365 jours de peur, de la terreur, des massacres, des boucheries, des israéleries, de jamais vu. C'est comme un tremblement qui est passé. Non seulement on vit sous la terreur et le bombardement, mais on vit aussi des conditions de vie très difficiles. Moi, personnellement, on était obligé de partir de Rafah, de Gaza vers Rafah. À Rafah, on était dans un petit T1 partagé avec une autre famille. Après Rafah, on était obligé de partir pour les mêmes raisons, parce qu'on était encerclé par l'armée israélienne, par les chars. Donc on était obligé de partir. Mais cette fois-ci, on est parti à Deir el-Balah. À Deir el-Balah, malheureusement, on n'a pas trouvé un appart pour se réfugier. Donc on était obligé d'implanter une tente et de vivre sous une tente. Vivre sous une tente, c'est vraiment l'humiliation totale. C'est pas faire un camping à la montagne ou bien sur à la plage, mais plutôt vivre dans des conditions très difficiles. Vivre avec les reptiles, avec les insectes, avec la mouche, avec le sable, avec la poussière. Vivre dans la chaleur comme dans un enfer. Donc c'est une vie vraiment d'humiliation. À part les bombardements et les israéleries, il y avait aussi la guerre de la famine. Il n'y avait plus rien à manger. C'est toujours le cas. Aujourd'hui, il y a quelque chose à manger, mais les prix sont extraordinaires. C'est pas du tout normal. C'est 10 fois, voire 20 fois le prix. Et les gens, ils n'ont pas la capacité d'acheter chez ce genre de produits. C'est pour ça que la majorité des gens, ils ont maigri. Et c'est la malnutrition. Il y a beaucoup des enfants qui sont morts à cause de la malnutrition. Et tout ça, c'est pas encore fini. En même temps, il n'y a plus rien pour les enfants. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de jardin d'enfants, il n'y a pas d'université, il n'y a plus rien. Il n'y a pas de vie, il ne reste plus rien. C'est comme si c'est un tremblement de terre qui est passé, et ce tremblement de terre, il n'a rien laissé. Il a touché la pierre, l'arbre, l'homme, il a tout construit, il a tout détruit. Il n'y a rien qui reste. Ceux qui sont toujours survivants de ce génocide, que moi je l'appelle un gazacide, ils restent tout le temps juste pour survivre et essayer de rester en vie.
Alain Gresh, oui, vous pouvez nous dire un mot sur cette collaboration. C'est important de donner la parole aux journalistes.
C'est important de donner la parole aux journalistes palestiniens. Depuis le 28 février, ils couvrent pour nous la vie quotidienne à Gaza. Qu'est-ce que c'est de vivre sous les bombes? Qu'est-ce que c'est d'être déplacé tous les jours? Aujourd'hui, il a publié une tribune dans Rien 21 pour dire son émotion pour ce qui s'est passé le 7 octobre en Israël. Et en même temps, il dit, nous, depuis le 7 octobre, nous vivons tous les jours à Gaza à 7 octobre. Et le fait d'avoir des images et de faire parler des Palestiniens est très important, d'autant plus qu'on peut constater que, à part Blast ou quelques autres, personne n'a donné la parole aux dizaines de journalistes palestiniens qui travaillent à Gaza, dont beaucoup ont été tués par l'armée israélienne. Et donc, on a dit, il n'y a pas d'image. Et personne ne met en cause, et j'ai vu peu de protestations de journalistes, sur le fait qu'Israël interdit les journalistes là-bas. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'il y a une guerre aussi longue qui n'est pas couverte par les médias. Parce que Israël a décidé, pour des raisons qu'on voit, quand on voit les images, on comprend pourquoi ils n'ont pas du tout envie que les journalistes aillent là-bas. C'est-à-dire que c'est une image d'apocalypse.
Clotilde, vous avez travaillé sur cette question, vous étiez correspondante. 174, je crois, journalistes morts à ce jour. C'est quand même un chiffre,
c'est jamais vu dans l'histoire du journalisme moderne, en fait, depuis que des organisations de défense de la liberté de la presse font des comptes. On n'a jamais eu autant de victimes journalistes et travailleurs des médias dans un conflit. C'est très compliqué aujourd'hui parce que, à la fois, et c'est ce que dit très bien Rami Abou Jamous, on a vraiment des journalistes qui sont pris eux-mêmes dans le quotidien de la guerre, qui ont du mal à nourrir leur famille, qui ont du mal à trouver de l'eau, qui ont besoin de mettre les leurs à l'abri, qui sont déplacés. Rami vit sous une tente. On a donc ce quotidien qui les empêche de vivre et ils sont sous les bombardements. Et puis, en même temps, il y a le fait qu'en tant que journalistes, ils sont particulièrement visés. On a réussi à avoir des témoignages de plusieurs journalistes qui nous racontaient que leur gilet presse, en fait, les mettent en danger bien plus qu'ils ne les les protège et que les drones israéliens les voient très bien et même les blessent directement.
Je rappelle juste que RSF a déposé 4 plaintes auprès de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre commis par Israël contre des journalistes. C'est important de le rappeler aussi.
Oui, oui parce qu'on on est en train en ce moment, depuis un an, de réunir justement ces preuves pour montrer qu'il y a un ciblage en fait, de ces journalistes palestiniens avec un but qui est celui de les faire taire. En fait.
Aymeric, vous voulez réagir là-dessus? Vous êtes aussi ancien journaliste, si je ne m'abuse, avant que d'être député.
C'est effarant de constater en effet le non-traitement médiatique, je pourrais dire le traitement médiatique, mais non, le non-traitement médiatique de ce génocide depuis un an. Je n'ai jamais vu ça. J'ai effectivement couvert différents conflits. Je suis allé sur les terrains qui étaient des terrains problématiques à l'époque où j'exerçais, que ce soit l'Afghanistan, l'Irak, la Côte d'Ivoire, etc. Un journaliste qui décide de couvrir un conflit sait qu'il va prendre quelques risques, mais c'est lui qui prend la décision ou pas, en principe, hein, d'un point de vue déontologique, d'aller ou pas sur le terrain. C'est pas un État, un gouvernement qui lui interdit, en prétextant peut-être de vouloir le protéger malgré lui. Ça n'existe pas, ça. Très clairement, Alain l'a dit, il y a une volonté de la part du gouvernement israélien de taire, de faire silence sur ce qui se passe dans Gaza, sur les atrocités qui y sont commises, empêcher toute documentation. Et puis ça permet surtout à Israël d'avoir son narratif. Quand Israël débarque dans un hôpital, par exemple, qui était utilisé par du personnel médical qui y soignait des civils et qui rase tout, qui tue tout le monde et qui dit ensuite « bah ouais, c'était le Hamas ». Et puis alors, aucun journaliste n'est là. Si, il y a des journalistes palestiniens, je vais en dire un mot dans un instant, aucun journaliste d'une rédaction française, européenne, etc., n'est là pour aller faire son reportage, pour aller faire sa propre enquête sur le terrain. C'est absolument dramatique, c'est une négation totale de la démocratie. Et moi, j'étais très choqué. Là encore, ça a été rappelé. Alors, le nom de journaliste tué, je crois que c'est un peu compliqué de le déterminer avec précision. RSF a un autre calcul que le vôtre, mais de toute façon, c'est une quantité énormissime qu'on n'a jamais vue sur un conflit. Mais de dire, on ne fait pas de reportage sur France 2, sur TF1, sur les chaînes info, parce qu'il n'y a pas de journalistes. Mais quel mépris, voire quel racisme, pour les journalistes locaux qui sont sur place. Parce qu'il y a des tas de journalistes qui travaillent, mais ils sont palestiniens.
Il y a eu cette phrase, pas de journaliste palestinien.
Et ça, on en tient compte, que oui, ils sont d'un côté de l'histoire, donc ça, on peut en tenir compte dans leur récit, mais enfin, au-delà de cette précaution qu'on pourrait prendre néanmoins, je trouve ça complètement irrespectueux, et je dis d'une certaine forme raciste, de considérer que leurs images n'auraient pas de valeur, leurs témoignages n'auraient pas de valeur. Est-ce que, par exemple, le journaliste qui témoigne toutes les semaines d'Orient 21 est un menteur? Je ne le crois pas un seul instant. Ces récits sont extrêmement documentés, précis. Voilà, ce sont des gens extrêmement sérieux, et on ne prend pas leurs témoignages en compte. Je trouve ça honteux.
Je rappelle que nous aussi, nous avons notre correspondant Mohamed El Seif, dont on va diffuser un reportage sur la deuxième partie de cette émission.
Je vais encore dire un mot sur eux pour leur rendre un hommage tout à fait particulier, parce qu'on sait que vivre aujourd'hui à Gaza, c'est l'incertitude sur le fait de savoir si on sera encore vivant le lendemain, parce que ce sont des gens qui se couchent sans savoir s'ils se réveilleront le lendemain, s'il n'y a pas une bombe qui aura détruit leur tente. Mais en plus, quand on est journaliste, on sait qu'on va être ciblé particulièrement. Alors, ceux qui ont choisi de rester malgré tout, enfin, sont d'un courage absolument admirable.
Souvent avec leur famille, d'ailleurs, sur place aussi. Lumi, on reparlera de rhinocéros après, mais vous développez aussi cette idée que les images provenant de ces journalistes palestiniens sont, on peut dire, très très peu utilisées par les médias français, totalement discréditées. Justement, c'est quelque chose sur lequel vous avez travaillé. On en reparlera plus longuement après, mais je veux bien que vous réagissiez.
Oui, c'est vrai que c'est pas du tout pris au sérieux à partir du moment où ça vient pas d'un journaliste qui vient d'un pays occidental. Les images ne seront pas prises au sérieux. Effectivement, il y a pas, on ne se scandalise pas, on ne parle pas du fait que les journalistes sont ciblés, sont massacrés, etc., etc. Leurs propres confrères, du coup, nous ici en France, donc invisibilisent complètement ça. Et puis aussi, donc vous avez parlé de racisme, et donc moi j'ai plutôt travaillé effectivement sur les journalistes qui travaillent en France. Il y a aussi donc l'association AJAR, donc l'association des journalistes antiracistes et racisés, qui a signalé qu'il y avait quand même une montée du racisme dans les rédactions en France depuis le 7 octobre, et qu'effectivement il y avait beaucoup de personnes musulmanes, par exemple, qui étaient tout de suite vues comme suspectes à partir du moment où elles allaient devoir travailler sur
d'être solidaires du Hamas,
de la Palestine, voilà. Exactement. D'ailleurs, ça s'est vu aussi dans certains reportages, quand on observe du coup les des bandeaux qui apparaissent en bas pour indiquer quelle est la profession de la personne, très souvent, il va y avoir écrit, par exemple, journaliste proche du Hamas ou journaliste proche du Hezbollah. Ça, voilà, même encore hier, je crois, dans le JT de France 2. Et donc ça, c'est normal. Alors, pourquoi pas donner des indications, etc. Par contre, quand les journalistes du JT de France 2 suivent les porte-paroles de l'armée israélienne, il n'y a pas écrit ces indications. Ouais. Et en fait, on nous prévient beaucoup quand c'est d'un certain côté, on va nous dire attention à ce que vous regardez, attention aux images qui sont diffusées. Ouais. Par contre, toutes les séquences et tous les moments qui sont faits avec l'armée israélienne, ouais, pour le coup, on ne nous prévient pas, on ne nous dit pas attention à ce que vous regardez, ces images proviennent de telle personne, etc. etc.
Puis on peut rajouter que dans les deux poids deux mesures, il y a les journalistes franco-israéliens qui sont en Israël, qui travaillent et dont on ne met jamais en question la... Alors, il y a de très bons journalistes, mais l'essentiel des médias israéliens aujourd'hui est avec le génocide. Et ça ne pose pas de question. On pense que du moment qu'ils sont franco-israéliens ou bien qu'ils parlent français couramment, ils sont objectifs. Tandis que de l'autre côté, on n'est pas objectif. C'est vraiment deux poids, deux mesures.
D'ailleurs, la seule journaliste occidentale qui a pu, quelques heures, entrer à Gaza, une journaliste de CNN, je crois, pour le coup, a été largement et abondamment relayée par l'ensemble des médias. Donc, on reviendra un petit peu plus tard sur cette question du cadrage médiatique et de ce que ça a eu comme incidence, évidemment, sur le reste. Mais j'aimerais là qu'on s'arrête sur la date du 7 octobre. Donc, il y a tout juste un an, le monde était frappé de sidération devant la violence et la soudaineté des attaques du Hamas en bordure de la bande de Gaza, 1200 personnes tuées, pour la plupart israéliennes, 240 ont été prises en otage. Aujourd'hui, c'est un jour de commémoration douloureux et important pour les Israéliens. Qu'est-ce que cela a changé, Alain Gresh, dans l'ensemble, pour la société israélienne?
Mais c'est un choc terrible pour la société israélienne. C'est la première fois depuis 1949 que Israël est mis en cause à l'intérieur de son territoire officiel. Ça met en cause le fait que depuis des décennies, Israël prétend que, avec la force, ils vont assurer leur sécurité, et que plus on tape sur les Palestiniens ou les Libanais, plus on est en sécurité, et ça a fait éclater ça. Autre le traumatisme des gens qui ont été tués, peut-être sur lesquels on reviendra, et des crimes qui ont pu être commis, il y a le fait que ça ébranle l'idée de la dissuasion israélienne. Et le problème de la dissuasion israélienne, qui est l'argument principal, c'est qu'il faut être fort face aux autres, c'est qu'en fait, c'est un argument sans fin. C'est-à-dire que depuis 49, Israël n'arrête pas de répéter que la prochaine guerre, ça sera la bonne. Si on tape assez fort sur les Arabes, on arrivera à une solution. Et en fait, la seule sécurité, il n'y a aucun pays qui peut avoir la sécurité par la domination militaire. La seule manière d'avoir la sécurité, c'est par la paix. Or, c'est un pari, on voit aujourd'hui, je veux dire, qui n'est pas le pari du gouvernement israélien, mais qui n'est pas le pari depuis très longtemps, quoi. Et on a eu l'impression que le 7 octobre, et puis tout le monde passe du 7 octobre comme si c'était le début de l'histoire. Mais moi, je me dis, mais qu'est-ce qui se passait le 6 octobre? Est-ce qu'on était proche d'une solution? Est-ce que les Palestiniens ne vivaient pas sous occupation? Est-ce que Gaza n'était pas sous blocus? Je veux dire, si on prend pas ça en compte, on est dans une vision qui est fausse et qui amène à des catastrophes. C'est-à-dire qui amène à dire, il faut soutenir Israël dans cette guerre perpétuelle qui, en fait, dont on voit bien qu'elle n'aboutit pas.
Émeric Caron, peut-être là-dessus, vous avez été, je le rappelle, vice-président du groupe d'amitié France-Israël.
Oui, on était plusieurs. À l'Assemblée, on a une dizaine de vice-présidents. Et ça me semblait important. J'étais déjà, depuis très longtemps, très engagé pour la paix au Proche-Orient et pour le respect du droit international sur place. Et ça me semblait important d'être à la fois dans le groupe d'amitié France-Palestine et pouvoir également être dans le groupe d'amitié France-Israël pour justement créer les conditions du dialogue, même si je me suis rendu compte en y étant que c'était très difficilement possible parce que ce groupe d'amitié France-Israël, en réalité, s'est avéré être un groupe de lobbying qui était entièrement dédié à la défense du gouvernement israélien de droite et d'extrême droite actuel. Comme on est le 7 octobre, un mot quand même, bien évidemment, il faut dire qu'on pense aux victimes de ces attaques du Hamas. On pense à elles, on a évidemment beaucoup de compassion pour les familles, les proches des 1200 victimes. On rappelle, hein, c'est à peu près 400 militaires et 800 civils, il faut le dire, parce que c'est pas parce que... Ça, c'est aussi dans toute la guerre de communication qui est faite. Depuis près d'un an, beaucoup de ceux qui défendent actuellement le génocide à Gaza, qui défendent Netanyahou, prétendent que les voies de la paix seraient des gens qui n'auraient aucune considération pour les victimes du 7 octobre, voire soutiendraient ces actes. Ce n'est pas le cas. J'ai été horrifié par les actes du 7 octobre. Voilà, je tiens à le dire si quelqu'un qui écoute cette émission avait le moindre doute là-dessus. Et ensuite, évidemment...
Que vous qualifiez d'ailleurs d'acte terroriste.
Oui, je dis que c'est peut-être... C'est quoi le terrorisme? Le terrorisme, c'est un mode opératoire qui consiste à commettre des actions généralement dirigées contre des civils pour créer l'effroi, la terreur dans ces populations. Donc on peut dire à la fois que les actes du 7 octobre sont des crimes de guerre, voire des crimes contre l'humanité, et des actes terroristes. Voilà, c'est absolument... c'est pas incompatible, malheureusement. Évidemment que ça n'a pas commencé le 7 octobre. Ça fait partie d'un récit de communication, laissant entendre que tout ce qui se passe depuis le 7 octobre à Gaza, maintenant au Liban et ailleurs, serait une conséquence directe du 7 octobre, de ces attaques qui viendraient de nulle part, qui n'auraient été motivées par rien d'autre que de la haine pure et simple. Non, c'est bien plus complexe. Et effectivement, ça fait plus de 70 ans que le droit international est bafoué dans cette région, plus de 70 ans que le peuple palestinien est privé d'un certain nombre de ces libertés essentielles et fondamentales. Donc, faire semblant que tout démarrait cet octobre est évidemment un mensonge. Ce que ça a changé, énormément de choses, mais Alain a déjà très bien résumé la situation, c'est que tout à coup, il y a une prise de conscience là-bas en Israël que, effectivement, le territoire peut être attaqué à l'intérieur, ce qui était absolument inhabituel pour la population. Ce qui est curieux, c'est les conclusions qui sont tirées de ce constat, c'est-à-dire que je crois que Netanyahou est à la fois... il était déjà très controversé avant le 7 octobre, pour d'autres raisons, mais il est en grande partie responsable du 7 octobre, Netanyahou, pour des tas de raisons, parce que il a favorisé le financement du Hamas, parce qu'il a négligé les renseignements qui parvenaient aux services de renseignement israéliens, qui avaient eu les informations selon lesquelles une opération comme celle-ci se préparait. Il a tout négligé. Il faudra une commission d'enquête là-bas en Israël pour... Et la population israélienne, même si je n'y suis pas, donc il y a des journalistes sur place qui auront un jugement sans doute beaucoup plus précis que le mien, mais ce que je perçois, c'est que évidemment la population israélienne est très fortement traumatisée. Et à juste titre, et que sa réaction n'est pas une réaction. C'est une réaction effectivement qui consiste à dire maintenant Netanyahou ne fait pas ce qu'il faut pour les otages. Donc il faudrait un cessez-le-feu. Il y a un mouvement quand même assez important aujourd'hui qui se manifeste pour ça. Mais attention, ce n'est pas pour autant que cette grande mobilisation est une mobilisation pour la paix avec les Palestiniens. Donc c'est ça. Je pense qu'il y a une situation qui va être extrêmement compliquée pour la suite et pour justement créer les conditions d'un dialogue, parce que des deux côtés, parce que non seulement les Israéliens sont évidemment traumatisés par 7 octobre, mais alors, qu'est-ce qu'on construit de l'autre côté? Ceux qui vont survivre, les Palestiniens, quand on sait qu'il y a déjà peut-être sans doute 100 000 morts aujourd'hui, puisqu'il y a les chiffres officiels du ministère de la Santé du Hamas, mais tous les humanitaires nous disent, en réalité, de retour de Gaza, nous disent que ces chiffres en réalité sont sous-évalués, qu'il y a sans doute 2 à 3 fois plus de morts. Donc, allez, 100 000, 120 000 morts, le chiffre précis, on ne l'a pas précisément, mais on sait que c'est un ordre d'idée tout à fait réaliste. Les blessés, énormément de blessés, des enfants handicapés, des enfants qui ont vu toute leur famille décimée, mais comment construire la paix? Comment avoir des générations de Palestiniens qui vont être dans des conditions de construire la paix quand on a vécu ce qu'ils sont en train de vivre? Moi, je suis extrêmement inquiet. Enfin, c'est comment... On va dire, ah, ils ont de la haine. Ah, bah oui. Bah oui, c'est qui n'aurait pas de haine quand on se réveille un matin, qu'on est le seul survivant de toute sa famille et qu'il nous manque 2 jambes? C'est pas un cas unique, ça. Tous les jours. Donc, on construit combien? 1, 2, 3 générations de Palestiniens qui seront pas dans des dispositions d'esprit favorables à établir une paix durable.
Clotilde, peut-être un mot, vous rentrez de Cisjordanie, j'imagine que le 7 octobre aussi a un écho...
Et d'Israël aussi. Et justement, j'ai pu constater à quel point la société israélienne est encore plongée dans ce traumatisme du 7 octobre. Vraiment, c'est très frappant. Je pense que la société israélienne s'en est pas remis. Il n'y a pas eu de commission d'enquête, il n'y a pas eu de conclusions qui ont été faites, c'est encore en suspens. On est vraiment dans un temps de la guerre. Et en plus, on se lance sur un nouveau front, le Liban. On a vu que la cote de popularité de Benjamin Netanyahou a augmenté très fortement, en fait, après l'ouverture de ce nouveau front il y a quelques semaines. Et on a vraiment une société qui est traumatisée et qui n'a pas, qui n'est pas passée à autre chose après le 7 octobre. C'est vraiment encore très présent. Et surtout, moi, ce qui m'a frappée, c'est qu'on a une société qui est très divisée. On était à la Knesset, on a assisté à une commission, en fait, qui débattait d'un plan sur comment régler la question militaire à Gaza. Alors évidemment, le plan n'est pas définitif, mais c'est un général qui émet l'idée qu'il faudrait en fait vider le nord de Gaza. Comment on vide le nord de Gaza ? Ben, notamment en stoppant l'aide humanitaire. Et dans cette commission, on avait vraiment deux Israëls qui se faisaient face, avec d'un côté des familles de victimes du 7 octobre, un proche d'un militaire tué, un proche d'un otage, qui défendait cette solution par la force, et de l'autre côté, les familles des otages, qui sont venues dire aux politiciens, aux membres de la Knesset qui étaient là, à quel point ils étaient horrifiés de voir que les leurs sont toujours à Gaza, un an après, et que le gouvernement n'est pas capable, en fait, que la force militaire ne marche pas. Et qu'au contraire, la force militaire est même ce qui a probablement tué une partie des otages.
Alors, la seule fois où des otages ont été libérés en nombre important, une centaine, je crois, ouais. Ça a été par des négociations. Et en fait, aujourd'hui, on voit bien qu'Israël sabote les négociations. Ouais, elle ne veut pas un accord à Gaza. C'est une des raisons pour lesquelles ils sont intervenus au Liban, d'ailleurs.
Il n'y a pas d'objectif de libération des otages.
Non, je crois que...
Mais Netanyahou n'en veut pas. Et des médias indépendants israéliens l'ont prouvé. Qu'il y a eu plusieurs occasions, même très peu de temps après le 7 octobre, d'arriver à un accord. À chaque fois, Netanyahou ne veut pas, puisque s'il n'y a plus d'otages israélien dans la bande de Gaza, il perd les motifs même de son intervention militaire.
Mais donc, ce qui est frappant, moi, je trouve aussi...
t'inquiète.
Qu'il y a vraiment une violence aussi à l'égard des familles des otages. On a vu dans les premiers mois, c'était pas tout à fait après le 7 octobre, mais c'était... Dans la fin de l'année 2023, où on a le ministre qui est en fait chargé de la police, le suprémaciste juif Itamar Ben-Gvir, qui littéralement hurle sur les familles des otages dans une discussion à la Knesset. Et ça, c'est vraiment des images qui sont choquantes et qui en fait font partie aussi de cet environnement qu'il y a eu en Israël pas directement après le 7 octobre, mais dans les mois qui ont suivi. Quand on poursuit cette guerre, il y a ensuite une profonde division sur d'un côté les familles des otages qui veulent protéger les leurs et un État qui va en fait contre leurs intérêts.
Lumi, vous vouliez intervenir ?
Oui, non, mais c'était on est passé un peu à autre chose. Par rapport à je voulais glisser que le Parisien avait fait un post où il parlait de la revanche du Phénix pour parler de Netanyahou.
Oui.
Je crois que c'était il y a quelques jours à peine.
Bah oui, la presse est assez.
J'étais un peu perdue quand on parlait de qu'il avait une cote de popularité qui remontait.
Partie à la hausse.
Donc la revanche du Phénix a quand même été écrit comme ça par le Parisien il y a quelques jours. C'était juste. Aussi un autre expression un petit peu de notre presse ici.
Ça donne aussi effectivement le ton de la manière dont ces événements sont perçus ici, en tout cas, ou traités. Alors d'ailleurs, le 7 octobre, c'est aussi, vous l'aviez dit Alain, le jour où en même temps que le mythe de l'invisibilité d'Israël s'est effondré, d'une certaine manière, c'est aussi le jour qui signe le retour de la question palestinienne par le pire. Et c'est le jour qui aussi définit ce qu'on appelle un cadrage, une nouvelle narration qui est celui de tout a commencé le 7 octobre. Et donc, tout ce qui va advenir après est une riposte au 7 octobre. Donc, je m'adresse aux gens qui nous regardent. Effectivement, cette émission a quand même l'ambition de montrer qu'il y a un avant 7 octobre et qu'il y a un après 7 octobre. Voilà, que l'histoire ne se scinde pas. Et à ce titre, Alain, vous souhaitiez qu'on diffuse un extrait d'un film qui vous semble important dans le traitement de la version aussi militaire, de tout simplement de cette action qui a été totalement...
Je crois que les crimes qui ont été commis le 7 octobre occultent un autre aspect qui est le fait que le Hamas avait des objectifs. Le Hamas et ses alliés, parce qu'en fait, pratiquement toutes les factions palestiniennes ont participé, avaient un objectif politico-militaire. Un, de casser le mythe de l'invincibilité d'Israël, ils sont arrivés. Et deux, de remettre la question palestinienne au centre de l'actualité politique, alors qu'elle avait été totalement occultée. En septembre 2023, Netanyahou fait une intervention devant l'Assemblée générale des Nations Unies, il montre le Proche-Orient, la Palestine n'existe plus. Donc, il fallait remettre cette question palestinienne au cœur du débat. Ils ont réussi. Je veux dire, après, qu'il y ait des crimes, c'est autre chose. Mais il y avait des objectifs politiques. L'idée que c'était, ils ont été simplement pour tuer des gens, c'est faux. Ils ont été avec un objectif politique qui a en partie réussi, en partie échoué. Ces gens, ils vont avec l'idée qu'ils vont être tués. C'est-à-dire que c'est pas des mercenaires, c'est des gens qui pensent que ça va faire bouger les choses sur la question palestinienne, et ils s'attendent à une résistance. Et effectivement, la résistance s'est effondrée, et ça, on le voit dans les images après, les combattants sont plus ou moins livrés à eux-mêmes, ils vont ils s'enfoncent plus dans le territoire, ils commettent des crimes, etc. Mais c'est quand même, y a une volonté politico-militaire de changer les choses. De changer les rapports de force. Et
Netanyahou aurait été informé de cette... alors que c'est une...
Vous savez, moi, j'ai, bon, il y a beaucoup de gens qui ont... Moi, j'ai entendu les théories du complot, en fait. Netanyahou a laissé faire pour pouvoir... Bon, c'est les mêmes... En octobre 73, les Égyptiens et les Syriens ont attaqué Israël pour récupérer les territoires occupés en 67. Et... les Égyptiens et les Syriens réussissent, et les gens disent, mais comment ils ont pu réussir? Alors, et on sait maintenant que les Israéliens avaient toutes les informations. Mais ils ne pensaient pas que, six ans après la guerre, de 67, qui avait été une victoire éclatante pour Israël, ils ne pensaient pas que les Arabes seraient capables de ça. Et globalement, il y a une forme de racisme, et de dire, bon, ces gens que nous occupons, ils ne sont pas capables de faire ça. Et je pense que, c'est pas qu'il y a eu une volonté de minimiser la chose. Il y a l'idée, bon, mais non, ce que vous dites, c'est de l'exagération.
En tout cas, dans l'ascension fulgurante du Hamas, on sait que Benjamin Netanyahou a joué un rôle assez important.
Ça, c'est un autre aspect aussi, c'est-à-dire que, comme vous savez, le pouvoir palestinien a été divisé entre Gaza et la Cisjordanie. Et il y a eu des tentatives d'accord, y compris, si je me souviens bien, en 2022, un accord entre le Hamas et le Fatah et les autres organisations pour réunifier la direction palestinienne sur une base de la reconnaissance d'un État palestinien en Cisjordanie et Gaza et sur le fait qu'il n'y aurait aucune action militaire contre le territoire israélien. Si cet accord avait été mis en œuvre, et réellement les Israéliens ont joué un rôle pour le saboter, les Occidentaux aussi, on n'aurait pas eu le 7 octobre. Donc, je veux dire, c'est important de voir cette évolution. Donc, voilà, on a une situation maintenant où...
Et si je peux me permettre, hein, oui, c'est... Il y a des sonores, on a des témoignages, enfin, on a des propos de Netanyahou. Il dit qu'il faut effectivement favoriser le Hamas pour qu'il n'y ait jamais la solution à deux États, puisque lui-même y est opposé. Il est issu d'un mouvement qui, historiquement, est opposé à la paix avec la solution à deux États. Donc, à un moment, quand il constate qu'il y a du côté des Palestiniens, des interlocuteurs qui, eux, travaillent, alors dans des conditions très compliquées, Alain Grech a écrit beaucoup de livres qui expliquent notamment les différents pour parler de paix, depuis plusieurs décennies. Enfin bref, en tout cas, Arafat a travaillé à trouver une solution de paix, d'autres. Et ça n'arrange pas du tout le camp politique de Netanyahou. Donc pour lui, effectivement, favoriser un mouvement comme le Hamas, qui n'est pas sur la même ligne que le Fatah, par exemple, c'était un acte politique délibéré.
C'était empêcher l'unification, c'est ça. Parce que s'il y a unification, il y a un interlocuteur unique, et il y a une pression internationale, paraît-il, pour forcer des négociations. Tandis que là, Netanyahou pouvait dire...
Sachant
non,
que le Hamas, sa ligne est en train d'évoluer aussi, était en train d'évoluer politiquement.
Mais le Hamas, vous savez, je veux dire, nous, la seule chose qu'on voit, c'est qu'il est islamiste, et on a l'impression que c'est une stratégie politique. En fait, le Hamas, il fonctionne comme toutes les organisations politiques, avec des courants différents, avec des points de vue différents, avec des débats internes, avec la prise en compte des rapports de force politiques. Le Hamas, à certains moments, était favorable à une solution de compromis aussi. Donc voilà, il faut prendre ça en compte et pas se laisser embrumer par le...
Sans reconnaissance de l'État d'Israël, ça fait partie...
Oui, mais c'était l'idée de fait, on accepte de fait...
De fait, sans le dire.
C'est ça. Sans dire, et sans renoncer, non, ça c'est très important, sans renoncer à l'objectif d'un État palestinien unique, mais rappelons-nous que le Likoud, depuis sa charte de 1977, dit exactement la même chose. Il dit qu'ils sont pour un seul État entre la mer Méditerranée et le fleuve Jourdain. Et pourtant, ça n'a pas empêché que les Occidentaux négocient avec Netanyahou, et personne ne dit cette charte du Likoud empêche la négociation avec eux.
En tout cas, ce cadrage de la riposte, de tout et de l'histoire qui commence le 7 octobre a amené aussi cette expression qui a été utilisée évidemment par les plus hautes instances en France et puis médiatiquement du droit d'Israël à se défendre en boucle, elle a été quand même déterminante dans la manière dont cette guerre a été traitée par la suite et évidemment dans la tragédie qui a été permise d'une certaine manière par cette communication-là. Vous parlez d'ailleurs, vous, Alain Grèche, de génocide d'atmosphère. J'aimerais bien que vous reveniez un petit peu sur
c'est-à-dire
cette expression.
Au-delà de ce qui s'est passé le 7 octobre, il a fallu créer, de manière, à mon avis, délibérée, l'idée que on luttait contre les Israéliens luttaient contre la barbarie. Et les Israéliens voulaient enrôler les Occidentaux dans cette guerre contre la barbarie. Et ça a été... alors, il y a eu il y a eu des crimes qui ont été commis le 7 octobre, mais là, on a... Pourquoi ? En limite, on aurait pu se contenter, entre guillemets, des crimes réels commis. Mais en fait, il y a eu une mise en scène qui a été totalement relayée par les médias français. Il y a une chose dont je me souviens, c'est qu'il y a eu un moment, une vidéo où on voit cinq enfants soi-disant israéliens dans des cages, dans une cage, enfermés dans une cage. Et ça passe sur une chaîne de télévision française, et l'historien Ben Soussan dit... C'est vrai, j'ai même vérifié, j'avais peur que ce soit un fake, j'ai été vérifié, j'ai pris mes sources en Israël, et en fait on sait que c'était un fake. Et puis on a eu le porte-parole de l'armée israélienne, dont il faut dire quand même Rafovitch, qui joue un rôle absolument démesuré, dont la parole est prise comme parole d'évangile, et qui a relayé toutes les fake news. Et ça à quoi ça sert ? Ça fait que réellement vous dites, mais attends, s'ils ont égorgé 40 enfants... Vraiment, ce ne sont des animaux humains, comme disait un des ministres israéliens. Ils sont capables de tout, et donc, quoi qu'on leur fasse, c'est pas grave par rapport à ce qu'ils ont fait le 7 octobre. Mmh. Et ça, je pense que ça a été délibéré en Israël, et ça a permis de souder la population israélienne déjà traumatisée, mais ça a été très important en Occident pour obtenir, au moins dans les premiers mois, un consensus, disons, au génocide. C'est-à-dire, en disant, bon, c'est vrai que... Peut-être qu'ils tuent beaucoup de gens, mais finalement, par rapport à ce qu'ils ont fait, c'est pas si grave que ça.
En tout cas, la question de la compassion sélective a été effectivement favorisée par toute cette construction, y compris médiatique, politique aussi, parce que Benjamin Netanyahou lui-même en a fait circuler pas mal des fake news, notamment avec Joe Biden.
Oui, le plus extraordinaire, c'est Joe Biden. Ouais. C'est à propos des 40 enfants décapités. Mmh. Joe Biden arrive en Israël. Netanyahou lui en parle, et il fait une conférence de presse pour dire « j'ai vu les photos des enfants ». Enfin, c'est quand même, je dis, ou bien il est sénile, ce qui est peut-être en partie le cas, ou bien... Mais la manière dont il relaye la propagande israélienne est quand même quelque chose d'extraordinaire.
Émeric Caron, cette question de la compassion sélective, justement, vous êtes vraiment beaucoup intervenu aussi pour essayer de... Voilà. Avec force, parce qu'il repose aussi sur cette idée d'inégalité des vies et des morts aussi,
On a entendu des choses stupéfiantes, sidérantes dans les médias français. On a entendu éditorialiste de CNews nous expliquer qu'un enfant palestinien qui savait qu'il était tué par une bombe, israélienne.
C'était Céline Pina, je crois.
Ouais, mais je voulais pas lui faire
Caroline
cet hommage.
Caroline Forest a dit ça aussi, il me semble.
Forest, je vais revenir, il y en a plusieurs, j'ai toute une liste de noms qui ont tenu des propos sidérants.
Donc, c'est pas la même chose qu'on
cet enfant mourait dans des conditions morales qui étaient quand même plus favorables qu'un enfant qui a été tué le 7 octobre par le Hamas. Parce qu'il comprenait que l'humanité n'est pas en faillite. C'est ce qu'il se disait. Elle disait, voilà ce que se dit l'enfant qui... Enfin, quel niveau... Enfin, pardon, mais on est dans du fascisme. On est dans du fascisme mental. On a Caroline Forest qui est allée sur des plateaux nous dire une chose à peu près similaire, que c'était moins grave un enfant palestinien tué qu'un enfant israélien.
On vient pas le tuer dans son berceau, juste on bombarde le berceau.
Raphaël Enthoven. qui dit des choses absolument similaires. Et tous ces gens-là ont plateau ouvert. Avec d'ailleurs pas d'opposition en face. Pour dire, attendez, qu'est-ce que vous racontez ? On peut s'arrêter un instant. Il faut bien voir que les partisans du camp de la paix. Moi, je n'utilise pas le terme de pro-palestinien, ça ne veut rien dire. Je ne suis pas pro-palestinien, pro-palestinien. Je suis pro-droit international. Pro-droit international. Le droit international est violé là-bas depuis plus de 70 ans, plus de 75 ans. On veut que la résolution soit adoptée. On veut que les Palestiniens aient le droit. Je le répète, en tout cas, un partisan de la paix qui vient sur un plateau ou qui s'exprime sur les réseaux sociaux est guetté en permanence pour voir comment on va pouvoir extirper le moindre des adjectifs qu'il utilise, la moindre virgule, pour essayer de voir s'il n'y a pas une pensée sous-jacente qui serait antisémite, évidemment, mais d'autres choses également. Alors que, en face, ceux qui défendent les crimes de guerre qui sont multi-renseignés, c'est-à-dire personne ne peut les... Et Raphaël Enthoven nous disait encore sur un plateau hier, on verra s'il y a des crimes de guerre à Gaza, mais il se fout de la gueule de qui, là ? Enfin, honnêtement, moi, je veux bien avoir de la patience, entendre tous les points de vue. Mais comment quelqu'un qui se présente comme un intellectuel peut aller sur une grande chaîne info pour encore mettre en cause la véracité du fait que des crimes de guerre sont connus, qu'on ait un débat sémantique autour du génocide? Je trouve qu'il est dépassé. Je trouve qu'aujourd'hui, on a suffisamment de spécialistes du sujet qui nous disent que c'est un génocide, que c'est pas à peine de remettre ce terme. Mais pourquoi pas? Allez, je veux bien. Mais expliquer qu'on n'est pas tout à fait sûr que ce sont des saloperies sans nom, qu'on n'a jamais vues au XXIe siècle, qui se déroulent à Gaza, c'est incroyable. Donc oui, je suis sidéré, même dans un entourage, on a tous connu des gens qu'on connaissait depuis 20 ans, 25 ans, qu'on pensait des amis, des gens qui sont venus manger chez vous, qui connaissent vos enfants. Ces gens-là nous expliquent que, oh là là, attention, est-ce qu'on n'est pas un peu suspect quand on défend le point de vue qu'on défend, à savoir stop. Stop, arrêtez les massacres à Gaza. Non, non, il faut comprendre ce qui se passe. Il faudrait comprendre. C'est bizarre. Je ne pourrais jamais comprendre qu'on s'en prenne à un enfant, qu'il soit juif, musulman, catholique, athée, de n'importe quel. On ne s'en prend jamais à un enfant. Jamais. Il y en a plus de 20 000 qui ont été massacrés. Plus de 20 000. 20 000. 20 000. Il y en aura plus qui seront morts dans quelques semaines parce qu'il y a toutes les morts indirectes. Ceux qui sont en train d'être soignés, malheureusement, beaucoup d'entre eux vont mourir dans les mois qui viennent. Et effectivement, je ne comprends pas que ce sujet ne fasse pas la une de tous les médias, chaque jour, depuis le 8 octobre l'année dernière. Je ne comprends pas que ça n'occupe pas les conversations des politiques. Je sais qu'on a une situation très problématique dans notre pays avec l'extrême droite qui a pris le pouvoir par procuration. Bien sûr, c'est un sujet qui doit nous inquiéter, mais tout est lié d'ailleurs, parce qu'il y a une forme de fascisation de la pensée aujourd'hui qui fait qu'on peut considérer que c'est pas grave un génocide à 3 ou 4 heures d'avion, que c'est pas grave. Mais derrière, ce que ça dit aussi, c'est le racisme qui habite encore nos sociétés et nos esprits. Parce que moi, je suis persuadé d'une chose, c'est que si ces enfants-là ne comptent pas, c'est parce qu'ils sont musulmans, qu'ils sont arabes.
Alors, oui, justement, je me permets de rebondir là-dessus. On sait déjà qu'effectivement, les médias, bon, ils vont aussi beaucoup suivre l'agenda du gouvernement. Donc, ils vont aussi suivre quelles sont les paroles prises par le gouvernement, etc. Et aussi, voilà, effectivement, on a une banalisation de l'extrême droite dans nos médias, une criminalisation de la gauche en parallèle de ça, qui est exceptionnelle. Et en fait, qui est déjà avait bien accéléré, disons, depuis les présidentielles de 2022. Mais là, depuis le 7 octobre, c'est encore pire. Et effectivement, criminalisation, notamment, on avait fait d'ailleurs une émission là-dessus, en particulier du Parti de la France Insoumise, aussi du NPA, et puis en particulier aussi de Rima Hassan, qui est...
Voilà, on va en parler, mais Lumi, puisque vous avez pris la parole, on peut parler du premier numéro de Rhinocéros.
Oui, pardon. Non, par rapport justement à ce racisme-là, on a eu droit à des comparaisons aussi sur les plateaux qui étaient assez dingues, qui arrivaient à faire le lien entre ça et les révoltes qu'il y avait eu après la mort de Naël. On a par exemple quelqu'un comme Christophe Barbier ou Éric Nolot qui vont dire qu'en fait, c'est la même chose, ce sont des guerres de civilisation, et que finalement, la Palestine et Israël, c'était donc la France de Le Pen et puis la France des banlieues. Et il y a eu des comparaisons comme ça qui sous-entendent toujours que les musulmans sont antisémites et qui arrivaient et qui se développaient comme ça et qui n'ont eu en face aucune contradiction. Et ça a pu être développé et répété un peu partout. Il fallait absolument, après le 7 octobre, utiliser le registre de l'émotionnel. Il fallait surtout rien expliquer. Effectivement, c'est Raphaël Enthoven qui, un des premiers, avait dit non, il faut surtout pas tenter de recontextualiser, il faut surtout pas politiser la situation, faut pas parler d'histoire, rien du tout. Simplement, il faut être dans l'émotion et il faut...
Donc on a un intellectuel revendiqué qui dit faut surtout pas essayer de comprendre.
Voilà, exactement.
C'est quand même très fort, ça.
J'avais vu, je crois que c'était une commission d'enquête où vous avez demandé au directeur de la rédaction de CNews, Serge Nedjar, s'il pouvait dire approximativement combien de personnes, c'était en février, si je dis pas de bêtises, combien de personnes avaient été tuées à Gaza. Et à ce moment-là, il était incapable de répondre, alors que c'était la une de Libé, c'était 30 000 morts à
ce
moment-là.
Le jour même, ouais.
Et voilà, donc c'est pour dire aussi le désintérêt total des médias sur la question, en plus du traitement catastrophique.
Mais en tout cas, c'était, quand je disais tout à l'heure, courageux, parce qu'effectivement, dans le bruit médiatique assourdissant, où il y avait vraiment un seul son de cloche, qui était celui qui défendait cette idée de riposte légitime d'Israël, et bien ce numéro de Rhinocéros a quand même recueilli un succès assez incroyable. Je crois qu'il a plus de 1 million de vues aujourd'hui. Je dis ça ensuite on regardera un extrait pour juste mesurer à quel point finalement du point de vue du public, en tout cas, il y avait un besoin à un moment donné de décrypter et d'être un peu plus dans la critique de ce tonnerre assourdissant dont on est en train de parler en ce moment. Donc je veux bien qu'on regarde plutôt un extrait et qu'on en reparle ensuite.
La communication des forces israéliennes était face à un vrai défi, préparer l'opinion internationale à la violence de la riposte et aux crimes de guerre qui allaient suivre.
Et pour parler aux Européens, c'est pas très compliqué, hein. Nous, tout ce qui est le blocus, l'occupation, la guerre sur notre sol, les famines, les coupures d'électricité, tout ça, on connaît pas trop. Nous, il faut nous parler de terrorisme et d'attentats. Ça, on connaît, ça nous parle, ça évoque des choses pour nous. Donc, dès le 8 octobre, tout a été fait pour que les Français adhèrent à ce récit de la riposte légitime face au terrorisme barbare et aveugle.
C'est là qu'on voit que la communication de l'armée israélienne a été très efficace, particulièrement en France.
Peu importe le nombre de morts dans les bombardements, d'enfants, de journalistes, peu importe l'utilisation du phosphore blanc, le blocus illégal, les déplacements de populations, eux aussi illégaux au regard du droit international, comme à peu près tout ce que fait Israël, peu importe la violence de la riposte qui s'abat sur les Palestiniens depuis un mois, tout nous ramène au 7 octobre, la seule date qui compte.
La seule date qui compte de 7 octobre.
Oui, on n'a pas le droit de parler d'autre chose. Et effectivement, oui, ça c'est intéressant aussi, parce que on remarque aussi l'interdiction absolue de parler de la colonisation. On l'a vu aussi au moment des événements en Kanaky-Nouvelle-Calédonie. L'interdiction absolue de parler de colonisation de la part des Occidentaux dans nos médias, c'est un mot qui est complètement qui peut provoquer des réactions.
Et pourtant, cette question est centrale, évidemment.
Bien sûr, oui.
Alain. Il y a quelque chose, moi, qui me semble très important à comprendre, c'est-à-dire qu'il y a un basculement qui explique aussi le basculement de la politique française, qui fut un temps où avait une politique équilibrée, prenait le dialogue avec l'OLP, agissait de manière concrète pour aider à une paix fondée sur un État palestinien. C'est qu'en fait, la grille d'analyse a changé. C'est-à-dire qu'avant, on voyait la Palestine comme une question d'occupation. C'est un peuple qui vit sous occupation, il a le droit à la détermination. Comment on peut faire pour qu'il exerce ce droit? Et puis, depuis, en gros, 2001, petit à petit, le récit a changé. Ce n'est pas vraiment un problème de colonisation, c'est un problème de terrorisme et de guerre de civilisation. Et ça, c'est un discours qu'Israël impose. C'est-à-dire, on l'a vu avec Netanyahou, il dit c'est un combat pour la civilisation.
C'est l'histoire de nos conservateurs.
Israël est présenté comme le bastion de la civilisation.
Mais la civilisation judéo-chrétienne, je veux dire, les centaines de milliers, les millions de Juifs tués sur le continent européen, ils doivent se retourner dans leur tombe quand ils entendent parler de civilisation judéo-chrétienne. Mais ils veulent nous engager dans une guerre de civilisation. Vous savez, il y a eu un livre célèbre de Huntington sur...
La fin de l'histoire.
C'est vers ça qu'ils veulent nous entraîner. Et il faut dire qu'une grande partie de la classe politique et des médias français adhèrent à ça par haine de l'islam, par haine des autres, mais aussi par haine des Français musulmans et par l'idée que nous sommes menacés, notre civilisation est menacée de l'intérieur, etc. Je crois que ça, c'est très grave.
C'est un tournant dont vous parlez aussi dans votre livre. Émile Caron, vous voulez réagir là-dessus?
Alain a tout dit. C'est vrai que ça fait partie de la guerre de communication qui a été engagée dès après le 7 octobre, qui était effectivement consistait à présenter la suite, c'est-à-dire la riposte israélienne, effectivement, comme c'est les discours de Bush de l'époque, hein, c'est la guerre du bien contre le mal, la civilisation contre la barbarie, ainsi de suite. Alors c'est vrai que les attaques du 7 octobre étaient barbares. C'est pas pour autant que Gaza, ce sont des barbares qui habitent ce territoire, que les Palestiniens sont des barbares, pas du tout. Mais effectivement, en faisant ça, et d'ailleurs, Macron, qui est un peu paumé sur ce sujet, je crois qu'il n'y connaît pas grand-chose, lui-même s'est laissé un peu embarquer là-dedans quand il propose une grande coalition internationale contre le Hamas. Enfin, on ne sait pas trop ce qu'il raconte, mais en fait, il adopte ce discours-là aussi. Et c'est pour ça qu'il y a eu tout ce débat sémantique dans les médias, qui d'ailleurs a pris une place bien trop importante par rapport à ce qu'il représente en réalité, mais qui était, vous savez, pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, la première question qui était posée à tout intervenant sur le sujet, s'il appartenait à la gauche, c'est, vous condamnez le Hamas déjà, mais après c'était alors terroriste ou pas terroriste, terroriste ou pas terroriste, terroriste ou pas terroriste. Parce que pouvoir poser ce mot de terrorisme comme ça, d'emblée, etc., permettait de partir sur un autre discours pour analyser la manière dont Israël avait... Non, l'AFP,
la
les
BBC non plus.
La BBC non plus.
Et puis, il faut rappeler que pour l'essentiel des pays de la planète, par exemple, Hamas n'est pas une organisation terroriste. Et que la définition d'une organisation terroriste est très compliquée. C'est des décisions politiques, souvent. C'est-à-dire, on désigne une organisation comme terroriste parce qu'on veut la combattre, mais pas pour des raisons objectives.
Si je peux me permettre, ce qui est gravissime dans ce qui se passe, c'est que qu'il y ait une tentative pour caricaturer les événements du 7 octobre, leur donner cette signification complètement binaire, pour ensuite engager une guerre du bien contre le mal. Ok. Bon, on peut être contre, mais même en adoptant cette grille d'analyse, on n'a jamais vu ce qui se passe à Gaza. C'est-à-dire, on n'a jamais vu une extermination physique du peuple comme celle à laquelle on est en train d'assister, faite au nom de la guerre du bien contre le mal. Enfin, Irak, Afghanistan, des pays dans lesquels j'étais au moment où il y avait les ripostes ou les offensives, parce que Irak 2003, c'est pas une riposte, c'est une guerre d'ailleurs de colonisation aussi. Mais bref, il y a eu des victimes civiles, il y en a eu plein, mais il n'y a jamais eu autant, on n'a jamais éliminé 50 personnes civiles en même temps, des femmes, des enfants, des personnes âgées, comme c'est fait en ce moment, même au nom de cette idéologie. Il faut bien qu'on comprenne ça. C'est pour ça que je dis que ce qui se passe, et là-dessus je rejoins Dominique de Villepin, ce qui se passe depuis un an à Gaza est absolument inédit en termes d'intensité, de barbarie, de déshumanisation des gens, inédit dans notre histoire moderne.
Merci à Blast et à ses invités pour cet implacable tour d'horizon. Et à bientôt, nous finissons en musique avec Massa, interprété par le trio Joubran. À bientôt. Shut up.